Vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine?
Non.
Ouais.
Bah allez. Bah,
non, je vous ai écouté vendredi.
Ouais. Bah, c'était sympa vendredi.
Ah bah tu m'étonnes que t'as trouvé ça sympa.
Bah mais oui. Pourquoi tu t'énerves?
Mais pourquoi je m'énerve? Mais il a annoncé ma mort. Mais...
Guillaume Meurice, oui, était dans la salle hier soir avec Alex Vizorek d'ailleurs qui n'est pas là aujourd'hui.
Feu Alex Vizorek.
Ah, mais c'est pour rire. Ça pour rire, il y a du monde.
Ça va, tu vas pas lui en vouloir pour ça.
Non, pour ça, je pourrais encore passer au-dessus.
Mais
il y a pire. Hein, vous vous êtes moqué de ce qui me tient le plus à cœur au monde.
Ta famille?
Non.
La paix dans le monde?
Non plus.
Mais quoi alors?
Mais les brèves.
Ah,
écoutez.
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Oui, même en l'absence d'Alex Vizorek, celui que ses fans surnomment Jacques Brève. Oh là là,
Ah ouais, ça vous fait encore bien rire.
Le
ouais.
jeu de mots est excellent,
ouais,
faut
reconnaître.
Et Alex, je propose qu'on fasse table rase, qu'on se concentre sur le super invité d'aujourd'hui, parce que hey, c'est Raoul Peck. Hein.
Connais pas.
Oh, il connaît pas Raoul, ce mec.
Ah, bravo, brillant, Guillaume.
Bah, en tout cas, Eric Métayer, notre invité de vendredi, il avait vu le film de Raoul Peck. Il avait même donné une note.
Ouais, je vais mettre un 6, comme ça je suis sûr.
Guillaume, tu vas arrêter de nous disputer avec tout le monde.
Ok,
là,
ça va, ça va.
Sinon, on va tous t'appeler Jacques Fiel.
Excellent. Ah, c'est... Non, c'est brillant. Hein. Ah, c'est... Bonjour la France Inter, vous écoutez une start-up émission de l'incubateur Radio France et voici les trois informations dont les indemnités seront plafonnées au prud'homme. Le fameux modèle allemand de Merkel est si performant que 90 députés d'extrême droite entrent au Parlement. Mais comme prévu, Angela Merkel a été élue pour un quatrième mandat.
Alors que revoilà la sous-préfète.
Les essais qui parlent d'utopie en politique, on le vend en poupe et pour y croire, elle s'appelle des utopies réalistes ou utopies concrètes pour que le nouveau monde citoyen commence dès demain.
Si on commençait par un jour férié, hein, on va tous se recoucher, symboliquement c'est fort.
La poupée Barbie est en perte de vitesse, alors la marque Mattel a eu une idée de génie, l'a déclinée en esquimaux et en bûche de Noël. Comme ça la Barbie, si tu l'as pas dans les mains, bah tu l'as dans les fesses.
Un publiciste, c'est un salaud qui vend de la merde aux pauvres en les prenant pour des cons et qui appelle ça être créatif.
Lui aussi, il est belge comme moi, donc il dit pas un esquimau, mais un frisco. Sachez-le, c'est Alex Vizorek.
Un frisco et des calipos pour l'été. Bonjour Charlie Vanhoenacker, et aujourd'hui...
Oh, rien du tout à ce qu'ils disent.
Autour de la table, belle équipe en ce lundi à 17h20. Il aime la musique et pourtant elle ne le lui rend pas toujours bien. C'est un peu comme moi avec les femmes. Bonjour Monsieur Djoubaka.
Bonjour Monsieur Alex Vizorek, bonjour tout le monde.
De quoi on va parler?
Eh ben, je vais faire rentable. Aujourd'hui, on va parler de deux endroits en même temps, la Jamaïque et Cuba.
Très bien, rentable, à 17h30. L'homme qui donne aux Français l'occasion de s'exprimer. Et c'est sans doute pour ça qu'il l'aime, car il les incite à faire la chose qu'ils préfèrent. C'est vous, Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je me suis intéressé aux indépendantistes catalans qui manifestaient hier à Paris. Pourquoi?
Parce qu'il y a eu un coup d'État à Barcelone.
Mais quand?
C'était mercredi, je crois, ou jeudi.
Putain, merde, prévenez-nous, on aime bien les putsch, nous. Passion putsch, à 17h35.
Et enfin, à 17h40, c'est l'acteur français par excellence. Car quand il parle, on ne sait jamais vraiment ce qu'il nous dit, mais au fond, c'est la poésie qui sort gagnante. C'est vous, Hippolyte Girardeau, bonjour.
Merci du compliment. Eh bien, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais chroniquer le film de notre invité.
Oh, mais dis donc.
Mais c'est incroyable. Pour ça qu'on vous avait engagé, Hippolyte, vous êtes au courant.
Et oui, et je me tourne vers lui, vers celui avec lequel on va essayer de ne pas se disrupter. Vous écrivez votre premier long métrage alors que vous venez d'entrer à l'Académie du film de Berlin. C'est Eisenkorner, tourné à Brooklyn. Vous racontez la dictature de Duvalier dans L'homme sur les quais, puis vous devenez ministre de la Culture en Haïti. On vous doit aussi Lumumba sur la décolonisation du Congo belge. Vous avez réalisé la série télé sur l'affaire Villemain. Votre avant-dernier film s'intitule I'm Not Your Negro. Et depuis 2010, vous êtes le président de la FEMIS, la fameuse école de cinéma. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, mais on a deviné, vous êtes...
Raoul Peck.
Oh là 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 là,
ça c'est chic.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Du calme, du calme. Bienvenue Raoul Peck.
Merci.
Vous venez nous présenter votre nouveau film qui s'appelle Le jeune Karl Marx qui sort en salle mercredi. Karl Marx a 26 ans. Dans la fiction que vous réalisez, que vous écrivez, philosophe et journaliste exilé à Paris. Il rencontre Engels, fils à papa, qui a eu sa prise de conscience sur l'esclavage induit par la révolution industrielle. On les suit dans leur quotidien pour comprendre mais comment leur amitié s'est formée et leur collaboration et comment tous les deux ils vont changer le monde. C'est Karl Marx qui dit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde alors que le but est de le changer. » Voilà toute la différence. Alors évidemment, le jeune Karl Marx, c'est pas du tout innocent de votre part de redonner à voir aujourd'hui ce jeune Karl Marx, ce jeune Engels, ces deux jeunes Européens avant l'heure, la façon dont ils réfléchissent et dont ils vont changer le monde. Et leur pensée à ce moment-là, c'est...
Oui,
aujourd'hui,
absolument.
Ça résonne, là.
Il fallait surtout éviter le vieux barbu sur son socle de granit, puisque avec en 2 heures de film, on peut pas rattraper presque un siècle de mensonges, de crimes, de diversions diverses. Donc, il fallait s'attaquer à la base. Donc, prendre ces trois jeunes gens qui vivent dans une époque répressive et une Europe répressive,
et avec génie, donc,
avec génie et et on peut même compter Mary Burns, la compagne d'Engels, qui décide tout simplement d'avoir le culot de dire, voilà, il faut changer le monde. Et il s'attaque à tout le monde, c'est-à-dire les grandes têtes de l'époque comme Proudhon ou Weitling, qui était vraiment une star populiste, presque mystique.
Habité,
qui a fait de la prison, qui a été torturé, etc. Parce que c'était une Europe assez dure à l'époque, mais qui quand même défie tout. Il critique la religion, il critique la philosophie, il s'attaque à l'économie, et il s'attaque à l'histoire, puis le politique, et décide en même temps de créer pratiquement à partir de rien un mouvement des prolétaires.
Avant 2008 et la crise financière, c'était un peu plus une aberration de parler de lutte des classes. Le film aujourd'hui, le jeune Karl Marx, c'est plus facile de le faire en 2017
Oui, je me rappelle des regards obliques quand on me demandait c'était quoi votre prochain film, et je disais oui, je travaille sur Karl Marx. Avant 2008, on vous prenait pour un fou furieux.
Et quoi, aujourd'hui, ça refait sens.
Ça refait sens. Le président Sarkozy lui-même s'est laissé photographier avec le Capital à côté de lui. Donc voilà, tout le monde s'est devenu très in.
Alors ce qu'on voit dans le film, c'est leur quotidien à cette époque aussi, c'est l'exil, ils ont 26 ans, Karl Marx devient de doctorant à impliqué, etc. Si Engels n'était pas tombé amoureux d'une ouvrière, si Marx n'avait pas été marié à Jenny, si Marx n'avait pas galéré pour nourrir ses deux enfants tout en étant en exil, s'ils ne s'étaient pas admirés tous les deux finalement à travers leurs écrits, outre le processus de réflexion, les circonstances de la vie intime que vous détaillez dans le film montrent que tout ça n'a tenu qu'à un fil finalement. Et tout ça explique beaucoup...
Oui et non, pas vraiment, parce que quelque part déjà, Karl jeune était célèbre déjà en Allemagne. C'est un type duquel ses professeurs disaient, si vous voulez Voltaire, Kant, Diderot, Rousseau en une personne, il faut rencontrer ce jeune homme. Donc voilà, c'est pas n'importe qui déjà, il est un excellent journaliste dès le début.
Et
il a croisé Engels à l'époque. Ils se sont croisés à Berlin, ça s'est mal passé. Karl trouvait que Engels était un peu arrogant avec ses épaulettes, puisqu'il était militaire à l'époque, jeune officier.
Et fils à papa.
Et fils à papa, oui, il prenait du plaisir, il aimait les femmes, il buvait. D'ailleurs, les deux se battaient en duel à plusieurs reprises, etc. Donc, je pense que comme les deux écrivaient pour des organes progressistes, d'abord, ils se lisaient et auraient fini par se rencontrer.
Ouais.
Donc, je pense qu'éventuellement, ça aurait pu ne pas marcher. Mais dans cette scène, d'ailleurs, dans le film, où ils se rencontrent à nouveau dans le salon de Rugeux, il y a une espèce de moment important où chacun se reconnaît. Et Engels accepte d'être le second homme, c'est-à-dire celui qui va être à côté. Mais il se met au service du génie qu'il reconnaît.
C'est comme Charline et Alex. Hein.
Et commence une nuit de beuverie et de jeu d'échecs.
Absolument. Dans la réalité, ça dure 10 jours. Ils ne se quittent pas. Jour et nuit, ils font les fous, ils écrivent, ils discutent. Et ça a scellé une amitié qui va durer toute leur vie.
Des jeunes Européens qui ont changé le monde. C'est dans le film de Raoul Peck, le jeune Karl Marx, qui sort en salle mercredi. Saluons les acteur exceptionnel, celui qui joue Marx, Auguste Diehl. Il y a aussi Stéphane Konarske, Vicky Krieps, Anna Steele, Olivier Gourmet qui joue Proudhon et Alexander Scheer. C'est en salle donc mercredi. Raoul Peck est avec nous. Et comme on disait Guillaume Meurice tout à l'heure dans le bureau, en Marx !
Ah oui, oui, non, non. Oh, oui c'est bon.
Mais
ça.
Oui, c'est bon.
You're nothing but a dirty, dirty old man. You do your thinking with a one-track mind. You keep preaching about heaven and glory, but on your face it shows a different story.
Clean up your rap.
Your story's getting dusty. Wash out your mouth. Your lies are getting rusty. I can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. You know you fuck it up and I'm mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of a weaver. Same old game, you never change. Always rapping about the same old thing.
Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why it never lasts. You wanna be a graduated lover, but in reality you're just another brother.
You think you slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of a weaver. Same old thing, you never change. Always laughing about the same old thing. You know you're funkier.
You put yourself up on a big stool. Nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is a thing this generation.
What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring. You're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of a weaver. Same old thing, you never change. Always laughing about the same old thing, you know.
Funkier than a mosquito's tweeter. C'est Ike et Tina Turner, choisis par Chewbacca.
Ouais, trop bon.
Ah, trop bon.
Parce que c'est trop bon, tout simplement, par Jupiter, sur France Inter, en compagnie de Raoul Peck, pour son film Le jeune Karl Marx, qui sort en salle mercredi. On va y revenir avec...
Avec, je vois, Hippolyte Girardot, qui peaufine, hein, le gars. Il est encore dans le texte, à mon avis, il n'est pas terminé. Nous avons Chewbacca qui lui a bien préparé, puis Guillaume Meurice, bien évidemment.
Raoul Peck, voici le moment des petites informations. Hein, nous croisons les sources jusqu'à faire du tricot.
C'est une honte de traiter les gens en ne faisant jamais appel à leur intelligence. Donc c'est
le journal de presque 17h17.
Voilà ce qui nous intéresse.
Et on commence par les titres.
Le sénatorial, Emmanuel Macron devra donc composer avec une majorité de droite au Sénat.
Voilà, ça lui changera pas tellement du gouvernement.
En Allemagne, l'extrême droite a fait une percée historique lors des législatives.
Oui, voilà un parti d'extrême droite qui se porte bien, sans doute qu'aucun d'entre eux n'a mangé du couscous.
Et des brèves ?
Évidemment, faites par un spécialiste cette fois-ci.
Suite au résultat des législatives en Allemagne, qui a vu l'extrême droite entrer en force au Parlement, les Allemands sont descendus dans la rue.
Dans la rue, mais quelle influence, Jean-Luc Mélenchon. La rue.
Et la France insoumise, qui a défilé d'ailleurs samedi dans Paris.
Mais oui, on a pu y voir Benoît Hamon, il me semble.
Oui, et constater que ce dernier portait désormais la barbe.
Hamon a une barbe, Valls a un bouc. Si chaque fois une défaite politique doit se traduire par une réaction capillaire, Jean Lassalle devrait bientôt avoir des dreadlocks.
Les routiers ont commencé leur mobilisation, bloquant des dépôts pétroliers et conduisant ainsi aux premières fermetures de stations-service pour pénurie de carburant.
Voilà, finalement, en matière de transition écologique, les routiers pourraient s'avérer plus efficaces que Nicolas Hulot et Anne Hidalgo réunis.
Jean-Luc Mélenchon a lui affiché son soutien aux routiers.
La rue, les routes, il est en forme en ce moment, c'est plus un politique, c'est un GPS.
Social, en vue de réaliser 3 milliards d'économies, le gouvernement envisage de supprimer des milliers de postes à Pôle emploi.
Donc enlever des postes à Pôle emploi. Alors on imagine comment on a annoncé aux équipes. Alors Jean-Paul, Myriam et Christian, à partir de lundi, vous passez de l'autre côté du guichet.
Et puis c'était la une du Parisien aujourd'hui en France. Bernard Tapie a annoncé qu'il souffrait d'un cancer.
Oui, exactement. Et c'est le comble de l'ironie qu'il ait des problèmes de santé, alors qu'il aurait pu y finir à la santé.
Et les supporters de Marseille lui ont rendu hommage.
Oui, parce qu'il les a fait rêver, écoutez.
Il n'a pas fait rêver qu'un stade, il a fait rêver toute la France. Tout le monde est encore amoureux de l'OM à cause de Tapie. C'est l'héritage à Bernard Tapie, tout ça.
C'est l'héritage à Bernard. Et en matière d'héritage, ce sera sans doute le plus simple à partager, parce que pour ce qui est de l'arbitrage du Crédit Lyonnais, l'héritage va être plus compliqué.
International, avec le génocide rwandais, un juge va enquêter sur le rôle de la banque BNP Paribas, soupçonnée d'avoir aidé au financement de 80 tonnes d'armes.
Oui, alors BNP, il sponsorisait Roland Garros déjà, alors à croire que c'est leur spécialité, les balles perdues.
International toujours, un religieux saoudien suspendu de prêche pour avoir affirmé que les femmes avaient un quart de cerveau.
Et ça, c'est pas bien, ça a choqué en Arabie Saoudite où on considère que les femmes n'ont pas de cerveau.
Culture à présent, Florent Pagny s'est installé au Portugal et il est décomplexé.
Je suis en train de m'installer, de prendre la résidence portugaise pour des vraies raisons fiscales, mais en même temps, la vie est extraordinaire.
De vraies raisons fiscales ?
Oui, le Portugal, tout le monde va au Portugal pour des vraies raisons fiscales.
Des vraies raisons fiscales.
Il assume,
Ah ouais, il assume totalement. Et même, il nous explique le pourquoi du comment.
Il y a trois règles fiscales au Portugal. Pas d'impôt sur l'héritage, sur la succession. J'en suis pas encore là.
C'est un tuto.
Mais je trouve ça sympathique quand même, parce que quand un mec a bossé toute sa vie en payant des impôts, le jour où il est mort, on lui reprend encore la moitié.
Ouais, petite info.
C'est pas une honte, ça, à ses gamins. Pas d'impôt sur la fortune.
Voilà,
je ne suis pas fortuné, mais j'espère y arriver.
Avocat fiscaliste.
Mais surtout, pendant 10 ans, pas d'impôt sur les royalties.
Voilà, ça, vous savez tout. Et donc, vous n'aurez pas sa liberté de planquier.
Des brèves. Un contrôleur SNCF a demandé sa carte d'invalidité à Philippe Croizon, amputé des quatre membres.
Mais ça, c'est pas de bol. Et en même temps, la SNCF, vu que leur sandwich coûte un bras, difficile de savoir s'il s'agissait d'un vrai invalide ou juste d'un voyageur qui avait un petit creux.
Pour terminer,
un auditeur fan de Brève m'a envoyé ce titre de la Nouvelle République avec cette terrible nouvelle, je vous laisse la dire, Charline, dans la Vienne.
Pas de fête du gland à Verge cette année.
Et ça, c'est bien triste.
C'est une page d'information.
Si on ne le dit pas, c'est l'information qui va le dire.
Les gens qui voulaient aller à la fête du gland, ils disent du coup, pas cette année.
N'est-ce pas, Raoul Peck ?
Absolument.
Et voilà, comme ça, ça vous évite un aller-retour inutile. Alors que sort mercredi en salle le jeune Karl Marx, et on va y revenir, bien sûr. On a choisi des sujets un petit peu connexes à cette histoire. Voici le premier sujet d'abord. L'extrême droite a déjà percé partout en Europe, mais cette fois, c'est autour de l'Allemagne. C'était plus arrivé depuis 45. 90 députés de l'AFD entrent au Bundestag. Ils vont former un groupe à l'Assemblée. On cherche un nom pour le groupe.
Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association. Montréal nazi, peut-être.
Monsieur, sachez que l'Allemagne est une démocratie et qu'en aucun cas, une ambassade allemande pourrait être au courant des agissements d'anciens nazis.
Oui, mais enfin, entre Allemands...
Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur.
Oui, je connais cette théorie. Oui.
Jean Dujardin dans OSS 117. Vous qui avez étudié à Berlin, Raoul Peck, les résultats de cette élection, elles ne laissent personne indifférent, bien sûr, mais vous, vous les avez observés avec un peu plus d'acuité, ou vous les avez ressentis un peu plus dans votre chair ?
Oui, parce que bon, l'Allemagne, c'est un peu mon deuxième pays, puisque j'y ai passé près de 15 ans, j'y ai étudié, j'y étais à l'âge de 17 ans. Et je connais un peu l'évolution de tous ces partis aujourd'hui qui sont sur le terrain, sauf l'AFD, bien sûr, qui est un parti récent. Et de voir qu'ils puissent arriver à pénétrer le Parlement comme ça, en force, on se pose des questions. D'autant que, en Allemagne, il y a une espèce de systématique dans les démarches. Et donc, cette entrée en force, elle va être imposante, puisque toutes les lois vont s'appliquer à elle, c'est-à-dire les financements, etc. Ils vont avoir droit à tout ça. Et aussi au niveau des lenders, de toute la hiérarchie administrative allemande. Et donc, il risque de laisser des traces profondes. Mmh.
C'est la preuve que la réussite économique, on nous vend toujours le modèle allemand. Alors, bien sûr, on sait qu'il y a une face sombre, ce fameux modèle allemand. C'est une réussite en chiffres, mais pas une réussite en termes d'humanité. Alors, parce que si le modèle allemand, il était si formidable, les gens n'auraient pas besoin de voter pour l'extrême droite, non ?
Oui, et puis quand on dit ça, c'est en général faux, puisque c'est vrai que les emplois sont plus bas. Sont plus hauts en Allemagne, il y a moins de chômage, mais il y a beaucoup d'emplois qui sont très mal payés, il y a des gens qui ont deux emplois, etc.
Et donc, ce qu'on appelle les mini-jobs, notamment.
Absolument, ouais. Ça c'est le succès total en Allemagne. Donc voilà, le modèle allemand, ce que je retiendrai moi, c'est que c'est vrai qu'en Allemagne, il y a une meilleure capacité de négociation, les pouvoirs sont plus répartis sur l'ensemble du pays. Les syndicats ont une place dans les conseils d'administration, donc les choses sont négociées bien à l'avance et ils sont au courant, ils ont les chiffres, etc. Donc cette espèce de tradition de négociation qui a été intensifiée après la Deuxième Guerre, et je pense, permet à la société allemande de mieux discuter ses problèmes. Donc ça, sur ce point-là, l'Allemagne est beaucoup plus intéressante.
Oui. Et Raoul Peck, justement, Berlin, pour vous, ça a été l'éveil à la politique, non? Ça a été le déclic, vous êtes arrivé, donc vous aviez 17 ans,
oui,
j'ai vos études.
J'arrive dans un Berlin qui est un baril de mouvements politiques.
Multiculturels,
tous les mouvements de libération sont à Berlin, souvent parce que les dirigeants sont en exil à Berlin, et Berlin c'est un peu capitale politique à ce moment-là. Donc les manifestations, tout le monde, c'était pour le coup des manifestations internationalistes, quoi. Tout le monde, les Latino-Américains, les Iraniens, les Turcs, les Africains, tout le monde était dans la rue avec les Allemands, bien entendu, et il y avait une vraie solidarité.
La plupart des Allemands disent que Berlin, c'est pas l'Allemagne, parce que la multiculturalité fonctionne hyper bien intellectuellement. Évidemment, ils sont sans doute plus proches de ce qu'on raconte dans votre film que du résultat des élections. Mais alors, est-ce que ça cache ça, le reste de l'Allemagne qui restait peut-être...
Alors, avant la chute du mur, c'était vrai. On se sentait à Berlin comme dans un village. Personnellement, j'avais l'impression de connaître tout le monde. Les lieux, on les fréquentait tous. Il y avait un mélange de classes, de races, bien sûr, mais aussi de politique. Tous les gens qui sont plus tard devenus des terroristes, certains, on les croisait. Des gens comme Strobele ou Joschka Fischer, qui est devenu ministre des Affaires étrangères, on le voyait dans les mêmes cafés tout le temps. Donc tout ce monde-là se croisait, différentes générations se mélangeaient. Et c'est vrai que c'était une période assez particulière. À la chute du mur, ça a changé. Tout de suite, on a senti le poids de l'argent, l'invasion des politiques dans cette ville, et puis l'ouverture vers l'Est, qui a créé d'autres blessures. Et c'est un peu pour ça que j'ai eu envie de quitter l'Allemagne à ce moment-là.
Raoul Peck est avec nous, et on va quitter Berlin pour partir en musique vers les Caraïbes, Djoubaka.
Bah ouais, comme vous le savez, moi j'ai une forte tendance à regarder la musique comme un îlot de liberté. Et c'est vrai que l'industrie du disque américaine anglo-saxonne règne en maître sur le business, mais il y a des exceptions. C'est là où c'est bien. Et les musiques qui sont nées dans les îles ont parfois un retentissement international. Alors il y a presque un siècle, nous, nous avons connu en Europe, en France et partout dans le monde, un amour en fait de la musique hawaïenne et polynésienne. Au sortir de la Première Guerre mondiale, en fait, après l'horreur des tranchées, les yeux, les oreilles se sont tournés vers ces paradis terrestres. Et nous avons eu à Paris un nombre d'orchestres hawaïens absolument incroyables, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Italie, vraiment partout dans le monde, qui reproduisaient les chansons quasiment à l'identique et qui ont popularisé des instruments comme le ukulélé. Et c'est aussi vrai pour le Cap-Vert que le succès de Cesaria Evora a remis sur la carte du monde, qui était un endroit inconnu pour Alex Vizorek jusqu'alors. Donc c'est l'histoire d'un combat sonore en fait, celui de David contre Goliath. Et puis il y a deux autres îles aux Caraïbes qui pour le coup ont produit des musiques qui ont traversé les ondes, les frontières et influencé toute la planète aussi, c'est Cuba et la Jamaïque. Et il y a en ce moment en fait un projet assez incroyable qui a pour nom Havana Meets Kingston, qui crée un pont artistique en fait entre les musiciens des deux îles. Et l'idée vient d'un producteur de musique australien, comme on peut être très loin, il s'appelle Mista Sanova.
Ça reste une île, hein.
Oui, ça reste, voilà, on est toujours sur l'îlot. Et qui est très connu en fait pour être impliqué dans le monde du reggae, mais qui est aussi, comme beaucoup d'Australiens, un globetrotter, qui part à la recherche des sons. Et c'est lui en fait qui a décidé de rassembler tout le monde à la Havane. Donc tout le monde, c'est plusieurs générations en fait de musiciens des deux îles. On a les vétérans du Buena Vista Social Club, de la scène jamaïcaine avec Cyan Robbie ou Bongo Herman, et puis des jeunes pousses, vraiment la nouvelle génération en fait, avec chacun dans leur domaine des... En fait, un art du flow, de la façon dont ils vont dire et chanter, qui est très très particulier, qui est particulier de là d'où ils viennent. Alors bon, l'idée sur le papier, elle semble absolument excellente, mais la rencontre, elle n'est pas du tout évidente. On se demande quels vont être les points d'ancrage. On se pose aussi la question de savoir comment ces générations vont pouvoir communiquer entre elles, en fait. Et puis, est-ce qu'une expression musicale va prendre le pas sur l'autre? Il y a donc un inconnu artistique très fort et on peut vite, vite basculer dans le pire. Bon, c'est pas le cas. Mais à l'annonce de Havana Meets Kingston, c'est ça qui est vraiment intéressant. En une semaine, sur les réseaux sociaux, il y a plus d'1 500 000 personnes qui ont commencé à s'intéresser à ce projet, ce qui est vraiment incroyable, quoi. Et à l'écoute de ce disque, en fait, il est... étonnant de voir que le rapport de force se trouve dans les arrangements, comme si les deux éducations musicales, les deux sons en fait, avaient trouvé un compromis de création qui se retrouve dans les accents, les patois, les langages, les attaques rythmiques, les percussions, mais sans doute plus encore dans leurs racines communes. Et là, je veux parler de deux îles qui se sont trouvées sur les routes de l'esclavage et qui ont un héritage commun qui est lié au métissage. Et c'est une musique métissée qu'ils nous donnent à manger, quoi, et à entendre. Ils vont aussi avoir quelque chose de commun, c'est échapper tous les deux, ces deux endroits, à l'explosion du rock dans les années 50. 50. Cuba, on sait pourquoi, et pour des raisons politiques, puisque quand Fidel a pris le pouvoir, en fait, il a nationalisé la musique, il l'a régentée, il a interdit les clubs de jazz, les rythmes venus d'Afrique, en précisant à l'époque que cette interdiction leur ferait oublier l'esclavage. On voit pas bien comment, mais bon, c'était bien sûr une évidence. Et on a mis aussi de côté tout ce qui était l'héritage européen. Et la Jamaïque aussi a échappé au rock comme influence majeure grâce au développement en fait des communautés rasta et du retour vers l'Afrique qui passait par la Jamaïque, alors que les ondes des radios de Floride étaient très très importantes et diffusaient de la musique jusqu'à l'île. Donc il faut se méfier des petits, et c'est un peu ça ce que nous apprend ce disque. C'est une sorte de leçon à l'heure de la mondialisation qui voudrait effacer la particularité de chacun, comme on pourrait effacer le sourire de quelqu'un sans jamais le retrouver sur une autre personne. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle, ça marche pas à tous les coups. Alors on va écouter cette version de Cha Chan sur une rythmique de reggae et une mélodie purement cubaine.
Havana meets Kingston.
Ouais, bah une ville de Cuba, une ville de Jamaïque.
Ouais, ouais. Qui se marie parfaitement. Il y aura un documentaire alors.
Bah on l'attend et le disque va arriver dans un petit moment, mais les Anglais sont déjà vraiment à fond sur ce disque là. C'est pour ça que je vous en parle maintenant.
Merci Djoubaka, c'est superbe. Et Djoubaka, je rappelle que vous êtes le co-créateur d'une très belle revue d'art moderne et de pop culture qui existe depuis 7 ans déjà, qui s'appelle Hey! Point d'exclamation, et qui pour rester indépendante lutte. Et dans la lutte, on a besoin d'être plusieurs, d'un collectif, de vous. Vous lancez un financement participatif et nous avons mis toutes les informations sur notre page Facebook Par Jupiter pour une revue indépendante de qualité. Très,
merci
très classe.
Les amis.
Mais bien, il n'y a pas de quoi, pas de quoi, Djoubaka. Nous sommes en compagnie de Raoul Peck. Ça vous a plu, j'imagine, ce mélange que vous a choisi de Djoubaka?
Ah oui, bon, les Antilles, c'est ma région.
C'est... Oui, il est partout, Cuba, celui-là, il est allemand, il est des Antilles.
Et j'ai travaillé à Cuba plusieurs fois dans ma vie. Mmh. J'ai même construit des maisons à Cuba.
Ah
j'ai
bon
fait des récoltes d'oranges. Ça, c'est à l'époque où j'étais étudiant. J'étais membre des délégations de Berlin-Ouest. D'accord. À Cuba, où on partait en solidarité pour soutenir Cuba à l'époque.
Cuba où il y a une excellente aussi école de cinéma. Absolument. Et c'est une nulle de cinéma
qui,
aussi.
Qui collabore avec la FEMIS aussi.
Ah voilà. Et Raoul Peck, votre film Le jeune Karl Marx sera en salle mercredi. Hippolyte Girardot va y revenir dans quelques instants. Nous, on vous le recommande chaudement. On a adoré, vous vous en doutez, car avec Guillaume Meurice, nous sommes en Marx. C'est parti.
Oh là 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 là. Mais moi, je vais vous parler de la Catalogne aujourd'hui qui demande son indépendance et qui a bien raison, je vais vous dire. Si elle avait eu des frontières solides, Manuel Valls n'aurait pas pu s'échapper parce qu'il est là. Hein. C'est vrai qu'il s'accroche, Manu. Hein. On a connu des morpions moins tenaces que lui. Alors la Catalogne, évidemment, c'est pas... Oui, oui, la Catalogne, c'est le point morpion. Oui, la Catalogne, c'est pas que Manu, hein, ne généralisons pas. Ce sont aussi ceux qui manifestaient hier Place de la République à Paris et que je suis allé voir donc pour leur poser une question géopolitique, hein, une question Bernard Guetta, à mon niveau, hein, à l'arrache, une question Bernard Guetta, disons. Question dans un monde gangréné par le nationalisme, est-ce que c'est bien utile en temps de paix de remettre des frontières à l'intérieur d'un pays ? Réponse.
On ne peut pas remettre de frontières. Les Catalans, c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur fout de la paix. Ils veulent décider de leur destin tout seuls.
D'accord, donc avec...
Sans que le gouvernement central de Madrid leur fout de la merde.
On remettre des frontières, du coup, alors.
Ils veulent prendre leur destin en main et décider, c'est gouverner par eux-mêmes.
Voilà, donc ils veulent être indépendants.
Ils veulent être démocratiquement et pacifiquement indépendants.
Donc, remettre des frontières.
On peut dire comme ça.
Voilà, on va dire comme ça, parce que sinon, je te promets, on va perdre du temps. Alors, on va mettre des petits péages avec marqué « ici, c'est chez nous », puis « ici, c'est pas chez nous ». Et selon de quel côté tu nais, bah, tu auras dans ton biberon du gazpacho ou du thon à la catalane. Ça se joue à un mètre près, hein, c'est au poil de cul, ce genre de truc. Et du coup, ça te fait des êtres humains, mais complètement différents. Comment sont les Catalans ?
Les Catalans, qui sont les plus intelligents d'Espagne, entre guillemets, ne font pas...
C'est vrai, ça ? Et les plus modestes, on m'a dit.
Mais ils sont pas fanfarons.
Ils sont pas fanfarons. Ils disent simplement que ce sont les plus intelligents, mais de manière humble. Alain Delon aurait pu être catalan. BHL a certainement des gènes catalans. Alex, également. Jupiter, à la base, d'ailleurs, c'est un dieu catalan, il faut le savoir. Et c'est toute la culture, aujourd'hui, toute la culture catalane qui est en danger.
Ils ne veulent pas de maintenir notre culture, notre manière d'être.
Mais c'est quoi votre manière d'être, alors ?
Je sais pas, c'est une manière de vivre, une manière de faire des choses.
C'est pas très concret.
Non, mais il n'y a pas rien concret dans la manière d'être d'un peuple.
Non, mais c'est important que ce non concret soit indépendant des autres non concrets. Parce que sinon, on est dans l'abstraction totale. Sinon, à ce moment-là, quoi, on dit qu'on est tous des homo sapiens et puis c'est tout. Comment on va faire des guerres après ça, hein? Comment Serge Dassault, il achète son Montescalier Stana? Bon, faut y penser, bah ouais, mais faut y penser à tout ça. Vous voyez, moi, par exemple, moi, je suis bourguignon, hein, de naissance. Bon, c'est pas concret, mais croyez-moi que ça n'a rien à voir avec le reste du monde, rien à voir avec les Catalans.
On a une autre manière de vivre les choses, une autre manière d'accepter, une autre manière de se reconnaître.
Est-ce que vous pensez que je devrais demander l'indépendance de la Bourgogne ?
Pas du tout, ça, c'est vous, c'est votre problème, c'est pas le mien.
Mais non, mais du coup, vous m'avez fait douter.
Non, c'est pas ça. Nous, on veut ça.
Non, mais attendez, parce que finalement...
Alors, si les Bourguignons ne le souhaitent pas, c'est leur problème.
Eh mais peut-être qu'il y en a qui le souhaitent si je monte un mouvement.
Bah allez-y.
Oh putain, camarades. Peuple de Cônecourt-sur-Loire à Chalon-sur-Saône, c'est la révolution de la moutarde. Escargot Harbar. Pardon, je suis un petit peu enflammé. Non mais attendez, il n'y a aucune raison que notre culture bourguignonne soit inféodée au pouvoir parisiano-parisien. On peut très bien s'autodéterminer, on peut vivre en autarcie, on a du vin, on a du vin, voilà, on a du pinard, on a plein de trucs en Bourgogne. Hein, s'il faut, on un jumelage avec un autre territoire qui vit aussi en autarcie avec du vin. Gérard Depardieu, par exemple. On va se débrouiller. Et puis, en termes de culture, il faut quand même bien avouer que nous, les Bourguignons, on n'est pas comme le reste des Français.
C'est possible, ça.
Ah bah, c'est sûr.
Écoutez, j'en connais des Bourguignons. J'ai vécu un petit peu autour de Dijon.
Bah, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec le reste de la France.
Et alors ?
Et bah, donc, il faut qu'on soit indépendant aussi.
Mais c'est votre problème, c'est pas
vous m'avez convaincu.
Très bien.
Eh ben très bien, soyons indépendantistes, camarades bourguignons. On n'a rien à voir avec les autres. On est aussi intelligents mais humbles. Arnaud Montebourg, par exemple, il est bourguignon, vous voyez. Ouais, hein, intelligent et... voilà.
Salut.
Ah, voilà, on a une manière d'être qui est différente des Parisiens ou de l'Île-de-France. Et regardez Girardot, il est né à Boulogne-Billancourt. Il y a un langage déjà qu'on piche pas chez lui. On prend pas les chroniques. Parce que c'est une autre manière d'être au monde, si vous voulez.
Il demande l'indépendance, d'ailleurs.
Il demande l'indépendance. De Boulogne. Tout le monde. Allez, concluons. Alors, comment je fais maintenant? Comment je monte la révolution?
Vous trouvez d'autres bourguignons et vous vous organisez?
Vous faites un bœuf.
Enfin, un bœuf bourguignon, vous l'avez? Oh là là, l'humour catalan, c'était effectivement une spécificité locale aussi. Heureusement qu'il y a de l'humour, hein, parce que pour vouloir amener de la division à la division, faut quand même pas être très 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 sérieux.
Guillaume Meurice, merci pour ce moment. On va aborder ce deuxième sujet avec
vous. Je n'irai donc pas en vacances au Barcelone, hein, l'été prochain.
On l'a deviné.
Il y a des très belles corridas, c'est bien.
Non, ils ont interdit.
Non, ils interdisent, ouais. Justement, ça vous
là-dessus,
plairait.
Ils sont pas...
Raoul Peck est avec nous, profitons-en. Les médias s'emballent pour une bonne cause. Tiens, deux essais sur les utopies réelles, aussi appelées utopies concrètes. Ces ouvrages sont signés par un sociologue américain, Eric O. White, et par un historien néerlandais, Rutger Bregman, qui repense la société dans un avenir commun où les citoyens s'émanciperaient du capitalisme et seraient plutôt affranchis du travail, comme ceci par exemple. C'est une utopie concrète.
Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faudra économiser l'essence?
Les gars des raffineries ont décidé d'apprendre la musique.
Oh, c'est une blague?
Mais non, c'est officiel. Bientôt, c'est l'an 01.
Et vous y croyez, moi, c'est pas là?
Un petit peu que j'y crois. Toute la semaine à remplir des réservoirs, j'y crois. Et s'il y a quelqu'un qui le fera, ce sera moi.
Et qu'est-ce que vous ferez pour nourrir votre famille? Vous irez chasser le bison?
Ben, on enverra tous les gars qui fabriquent ces cochonneries aller gratter la terre avec leurs pieds, comme ça on manquera pas de blé.
Pendant ce temps-là, vous allez regarder pousser le blé?
Pas déplaisant.
Vous allez vous emmerder à 100 sous de l'heure, mon vieux. On est sur Terre pour travailler.
C'est pas évident, mais pas évident du tout. De toute façon, on aura le temps d'y réfléchir et de chercher à ce qu'on fait sur Terre, si on travaille ou quoi. Et puis, si on travaille, bon, on pourra se flinguer, mais alors on saura pourquoi.
C'est un extrait de l'an 01 de Jacques Doyon en 73 sur un scénario de GB. Alors voilà pour ces essais qui sortent dans cette rentrée littéraire, notamment celui de Rutger Bergman qu'on a beaucoup entendu sur cette antenne ou ailleurs, sur Arte par exemple, qui s'intitule Utopie réaliste. Un sous-titre, c'est En finir avec la pauvreté, par exemple. Justement, Raoul Peck, alors que votre film Le jeune Karl Marx sera en salle mercredi, ce qu'il proposait, Karl Marx, c'était aussi une utopie réaliste, une utopie concrète.
Il y a un lien à faire ou pas? Non, il n'a pas. C'est ça le comment dire, le misverstandness,
la compréhension.
Oui.
Le misunderstanding.
Voilà. Voilà, vous avez compris.
C'est l'Europe.
Voilà. Marx prédisait un type de société. Tout était ouvert, c'était à nous de choisir ce qu'on veut faire de cette société. Ce qu'il dit surtout, c'est que la société capitaliste est transformable. Que si on se met ensemble, on peut décider de changer. Le capitalisme n'est pas éternel. Le capital a cherché à nous faire croire qu'il était éternel, que c'était le meilleur système possible, que le marché est la meilleure forme de régulation. Or, on voit que chaque fois que le marché s'effondre, c'est l'État qui est obligé d'intervenir en injectant des centaines de milliards. Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir surtout de Marx, c'est que c'est l'analyse de cette société capitaliste qui a commencé à une époque définie, le début de la révolution industrielle, et qui continue aujourd'hui encore, et qui a la capacité permanente de se renouveler aussi, d'avoir de nouvelles formes. Mais les dégâts en même temps sont, puisque je vois que vous avez un sujet sur Barbie, là, voilà, on est devenu des marchandises, tout devient marchandise, les relations humaines deviennent aussi des marchandises, et donc on est en plein dans cette société.
Ce constat, il est fait là en 1840 par vos personnages, par Marx, par Engels, et ils se disputent avec Proudhon, et pour finir, on sent bien qu'ils pensent tous un petit peu la même chose, ils ont cette espèce de feu de gauche en eux, et on est 150 ans plus tard, et on se pose toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui manque à cette gauche-là? Est-ce que c'est vraiment des querelles d'idées intellectuelles plutôt que de l'avoir dans le ventre?
C'est parce que c'est un processus difficile, compliqué. Là, quand on montre Marx entre Proudhon, qui est plutôt ce qu'on appelle justement un socialiste utopiste, et Weitling, qui est plutôt ce qu'on appelle un socialiste mystique, presque populiste, ce sont les deux extrêmes en gros. Et entre les deux, il y a encore toutes sortes de mouvements ou de têtes de pensée. C'est compliqué. C'est compliqué de mettre tout le monde sur la même ligne, surtout quand il s'agit de politique, quand il s'agit de pouvoir.
Mais c'est un problème d'égo.
C'est là où ça se gâte. Mais en effet, on les compte tous dans la gauche. Et la gauche a su parfois se rassembler. On a vu après la Deuxième Guerre mondiale, comment la gauche a su se rassembler et faire de vraies réformes dont nous profitons encore aujourd'hui.
Et parmi ces utopies concrètes, hein, j'en cite quelques-unes, il y a la semaine de 15 heures, qui est prévue pour 2030, d'après l'historien Rutger Bergman. Le revenu universel ou les coopératives citoyennes, c'est peut-être ça la nouvelle utopie. Ce devenir commun, c'est le pouvoir
citoyen. Alors, ce qu'il faut dire, et qui est intéressant à voir quand on fait le recul historique, c'est qu'au début de la société industrielle, on était déjà dans un capitalisme très dur, mais on le voyait pas, on n'arrivait pas à le lire. Quand les gens, il y avait même des touristes qui pouvaient venir à Manchester pour admirer ces nouvelles grandes machines, ces grandes usines, ces machines à vapeur. Mais il y avait une autre partie de Manchester où les gens vivaient comme dans le tiers-monde. Les femmes, enfants, hommes marchaient pieds nus en hiver. Dans cette partie de Manchester. Donc déjà, ce capital produisait de la misère et de la richesse. Aujourd'hui, on a appris à penser que dans des portions de temps d'une année ou de deux ans, ou le terme politique, 4-5 ans. Or, si on prend un peu de recul, on se dit que le monde a déjà commencé à changer au plus tard en 73, première grande crise pétrolière. Donc ces 30-40 années qui ont suivi, on est en plein changement et on sera dans un autre monde dans 30-40 ans. Simplement, on ne l'aperçoit pas. Et ces utopies sont intéressantes parce que c'est comme des petites taches d'huile qui se développent un peu partout. La seule chose qui est un peu gênante dans tout ça, c'est qu'on laisse de côté la majorité du monde et on reste concentré dans le monde occidental. Parce qu'il y a plein d'initiatives ailleurs aussi. Et les réponses ne seront pas les mêmes. Et je ne vois pas encore les ponts qu'on jette au-dessus de toutes ces sociétés qui se cherchent aussi.
Et dans votre film, il y a aussi plein de petits Pierre Gattaz en devenir. Hippolyte Girardot va y venir à ce film jeune Karl Marx et il enfile une barbe.
Mon cher Raoul Peck, je suis honoré de vous voir parce que je vais faire une sorte de chronique sur votre film. En général, je ne fais pas de chronique sur les films parce que je n'y connais rien. Et d'ailleurs, je ne connais pas grand-chose à grand-chose. En général, je fais des chroniques qui ne veulent rien dire. Mais bon, là quand même. Vous décidez avec votre camarade, complice de longue date, Pascal Boditzer, de raconter la jeunesse de Karl Marx. Waouh, les mecs, dites donc, vous êtes sûr, on est en 2017. Hein. Aujourd'hui, il y a des culs serrés en col roulé noir d'une vallée californienne qui nous font acheter pour une somme équivalente à la pension annuelle d'une retraitée des postes en France, des objets soi-disant indispensables et surtout corvéables à merci. Alors que ces petits godes plats nous espionnent 24 heures sur 24 et font de nous les vrais esclaves des algorithmes des grandes compagnies. Juste pour vous rappeler que le capitalisme a gagné. Il a gagné le capitalisme et il a gagné dans les grandes largeurs puisqu'aujourd'hui, c'est nous qui demandons et achetons nos propres chaînes. Voilà. La dictature du prolétariat. Putain, la mal au cul. Hein. Les seuls communistes qui restent, c'est des types qui, à défaut de changer le monde, font trembler la terre ou espèrent que marcher dans la rue soit aussi efficace que prendre les armes. Alors Karl Marx, franchement, je sais pas, non? En plus, vous racontez son amitié avec Engels. Alors lui, c'est le fils d'un industriel allemand, amoureux d'une ouvrière et puis aussi de sa sœur. Allons-y, il est contre le mariage, pour le féminisme. Non, j'étais plus un hippie, le mec. Non, sans blague. À eux deux, Marx et Engels, ils font la ligue des communistes en noyautant la ligue des justes. Très malin. Ils remplacent le slogan « Hommes, tous frères », qui sent bon son Jésus-Christ, par un « Travailleur, unissez-vous », un chouïa plus burné quand même, il faut le dire. Un joli coup politique que votre film analyse, démonte et montre comme un exemple pour tout apprenti militant. Parce que non seulement vous nous livrez un biopic sur des révolutionnaires, ça c'est très à la mode hein, dans les pages culture de L, mais en plus, vous en faites un manifeste de la révolution. Alors, pas seulement vous tentez, parce que vous réussissez par exemple à nous montrer le mouvement intime d'une jeune Karl Marx, interprétée génialement par cet acteur allemand, là,
Auguste Diehl,
qui est un génie absolu, évidemment. Et on se rend compte que ce type dit, il ne suffit pas d'interpréter le monde, comme disait Charline, mais qu'il faut le transformer. Et quand il le dit, on le croit. Et ça, c'est génial, parce que là, vous nous faites le portrait d'un concept. Un concept en marche dans une rue, interprété par quelqu'un, ça c'est merveilleux, ça c'est utopique pour le coup, pour moi je trouve. Vous arrivez aussi excellemment à nous faire voir l'Europe des idées à travers les multiples langues que parlent vos personnages. Vous arrivez pertinemment à nous expliquer en quoi le profit n'est que le vrai but de ceux qui défendent l'idée de progrès, comme on le voit actuellement avec la marionnette du CAC 40 qui défend la démolition du vieil immeuble du Code du Travail au nom de la modernité. Franchement, dans le milieu ultra-capitaliste du cinéma, Monsieur Peck, c'est brave. Oui. Un peu plus que brave. Parce que si encore,
vous aviez songé à gagner le César de la meilleure barbe. Franchement, c'était le moment. Non, sans blague. On l'a tous remarqué, bousculade de biopic de barbu en un an. En septembre 16, Cézanne et moi, Gallienne, Canet, barbu. En mai 17, Rodin, Vincent Lindon, barbu. Septembre 17, Gauguin, Vincent Cassel, barbu. Et en outsider, en octobre, arrivera l'école buissonnière avec François Cluzet, barbu. Et vous? Vous, le seul qui aurait dû d'emblée avoir le César de la meilleure barbe, car qui ne connaît pas la barbe de Karl Marx? Imprimé dans tous les livres d'histoire, vous nous présentez un Karl Marx jeune. Jeune? Mais mon cher Raoul, ça se demandait si vous n'êtes pas exprès? Non? Vous nous faites un film honnête, brillant, intéressant, passionnant sur un homme politique révolutionnaire dont les idées ont changé le monde, mais qui n'a pas peint une toile aujourd'hui hors de prix, qui n'a pas séduit des mineurs en Polynésie, qui n'a pas créé le symbole de la de l'homme qui pense assis sur un siège, mais qui a écrit un livre bon, que personne n'a lu en général, mais qui surtout est connu pour quoi? Pour sa merveilleuse barbe, ultra célèbre. C'était le moment, Raoul. C'était le moment.
Mais calmez-vous.
Hippolyte Girardot. Et ce qui est formidable, c'est que sous vos dehors de Je fais l'andouille, vous avez parfaitement redéfini le film, le concept, etc. Parce que il y a aussi l'idée de revenir vraiment au texte, à la pensée, au processus de pensée, pour encourager aussi et donner des billes à la jeunesse.
Oui, absolument. C'était la plus belle critique que j'ai entendue jusqu'ici.
Avec une barbe fabriquée en Chine, hein, certainement.
Oui. Non, mais c'est oui, ça, mais,
absolument. C'était l'idée, c'est comment, nettoyer un peu les tonnes de mensonges qu'on a mis sur ces idées. Bien entendu, les régimes soviétiques et autres n'ont pas aidé, les crimes commis n'ont pas aidé. Or, il faut revenir à cette jeunesse, il faut revenir à cette capacité de pouvoir changer le monde. Et aller plus loin, quand on parle de ces trois jeunes qui, en effet, viennent de familles bourgeoises, voire très riches, mais ils laissent tout derrière. Ils créent un autre rapport avec l'argent. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous sommes fascinés et par l'argent et par les marchandises. On est en train, la semaine dernière, tout le monde parlait de iPhone 8, 9, 7, 10... moi, j'arrive même pas à utiliser 10% du téléphone,
oui,
que j'ai.
C'est vrai. Ouais.
Donc, on veut m'imposer en plus de perdre encore plus de temps là-dessus.
Et c'est pour ça qu'on ne perdra pas de temps avec Barbie.
Barbie,
non, c'est vrai. Barbie qui fonctionne pas et qui donc se vend en esquimau et en bûche de Noël. Donc ça vaut franchement pas la peine.
Mieux vaut la barbe de Karl Marx que la Barbie de Mattei.
Effectivement. Raoul Peck, on a une proposition à vous faire, très concrète.
On propose un sketch à l'invité qu'il découvre. Et attention, parce que après le jeune Karl Marx, il va falloir trouver une nouvelle idée de film.
Je vais encore me faire des amis.
Alors je vous propose le très très jeune Philippe Pétain. C'est une idée de biopic.
Vous n'allez pas me faire ça quand même.
Vous êtes Philippe Pétain à 12 ans. Guillaume Meurice est votre père, Charline votre mère. Et on voit comment ça se passe et ce qui peut être l'a amené à devenir ce qu'il est devenu.
Clotilde, il est où le petit Philippe là?
Il est encore malade.
Oh, c'est pas vrai. Décidément, Philippe, il est pas très résistant.
Maman, papa, je vous aime.
Ah, oh, il aime sa famille.
Et aussi le travail, et aussi la patrie.
C'est bien, mon fils.
Papa, je voudrais aller à la messe dimanche.
Dites donc, il aime bien la religion.
Bon, si tu travailles bien à l'école, pourquoi pas?
J'ai une bonne première interro et j'ai raté la deuxième.
Ah ça, tiens-en compte dans la vie.
De quoi?
Non, c'est pas parce qu'on réussit la première qu'on réussit la deuxième.
Ah, ça c'est une bonne morale.
Ouais, merci maman de me donner des valeurs.
Et si tu réussis bien cette année, nous irons en vacances.
Oh super papa, on ira où?
Eh ben écoute, tu peux choisir.
Moi je voudrais aller à Vichy.
À Vichy? Mais il est étrange ce gosse.
Ah, moi j'avais plutôt envie d'aller en Normandie.
Oh non Burke.
Mais pourquoi Burke?
Les plages de Normandie, ça ne m'inspire rien de bon.
C'est très bien, Philippe.
Non, d'accord. Mais attends, il est bizarre, ce gosse. Hein.
Bonjour, madame Pétain. Est-ce que Philippe est là?
Il est malade. Ne t'en approche pas.
Mais moi, je voulais jouer avec lui.
Je veux pas jouer avec Charles.
Philippe, sois gentil. Regarde, Charles, il a apporté ses petits soldats.
En plus, Philippe, il me bat tout le temps. Je pense que Philippe, ça ferait un excellent militaire.
Oh, j'espère pas. C'est beaucoup de soucis, ça. Hein.
Je retourne dans ma chambre.
Mais qu'est-ce que tu vas y faire, Philippe?
Je vais écrire à mon correspondant allemand.
Ah bon?
On parle de Bismarck, on l'adore tous les deux.
Non mais attends, il est bizarre ce gosse. Hein.
Peut-être un jour que j'irai en Allemagne.
Oh, qui sait, peut-être un jour, ce sera lui qui viendra en France.
Ah oui, c'est encore mieux.
Bon ben, moi je suis rentré chez moi.
Bah désolé Charles.
Ah, c'est rien madame Pétain, moi je voulais juste collaborer avec Philippe.
Mais bon, Philippe ne veut pas collaborer.
Hein. Oh, j'ai pas dit ça.
Mais, il est bizarre ce gosse, non?
Raoul Peck joue le petit Philippe Pétain.
dans le biopic, ah, le très
merci,
très jeune.
Ça va jaser.
Raoul Peck, merci d'avoir passé ce moment avec nous. On était vraiment
très agréable.
Ravis. Et je rappelle que votre film Le jeune Karl Marx sort en salle mercredi, que c'est absolument épatant et qu'on redécouvre des tas de choses et qu'on en comprend beaucoup. Et puis ça donne un souffle. Hein. On a envie de faire de la révolution directement en sortant de la salle. C'est avec notamment Auguste Dill, Stéphane Konarsk, Vicky Krieps, Anna Steele, Olivier Gourmet et Alexander Scheer. On les cite tous parce qu'ils sont formidables. Et je rappelle aussi que le livre inachevé de James Baldwin a été reconstitué par Raoul Peck et c'est en livre I Am Not Your Negro. Cette édition Robert Laffont Velvet Film, disponible 5 octobre. Bien sûr, on se rappelle de votre dernier documentaire I Am Not Your Negro. Merci. Merci Raoul Peck. Le voici le mot de la fin, hein, puisqu'il précède une minute de publicité. Profitons-en pour rappeler un principe fondateur.
Un publiciste, c'est un salaud qui vend de la merde aux pauvres en les prenant pour des cons et qui appelle ça être créatif.